Bonjour à chacun. En venant ici, je me suis souvenu que la dernière fois que j'étais invité, je n'ai pas pu être présent. C'était pour la mise à part de Christian, n'est-ce pas Christian? J'ai appris que ça s'est bien passé. J'ai été aussi invité à la mise à part à Actonville de Dominique et puis de deux diacres qui étaient là-bas. Et puis on avait une rencontre de famille, alors j'ai pas pu y aller non plus. Donc, voyez-vous, là, pas de jaloux. Comme ça, on règle les éventuels problèmes. En tous les cas, en pensant à cette mise à part, ça me faisait penser au rôle de pasteur et aussi à la relation entre l'Église et son pasteur. Donc c'est un privilège d'avoir des serviteurs. Quand à l'Église de l'île Jésus, on a cherché un pasteur, on s'est tourné vers notre propre association qui nous a dit « il n'y a pas de candidat ». Alors on s'est dit « qu'est-ce qu'on va faire ?» Finalement, on a trouvé un candidat, mais beaucoup d'églises sont sans pasteur. Et d'avoir un pasteur, c'est un privilège. Et c'est un privilège pour l'ouvrier de servir son église, mais c'est aussi un privilège pour l'église d'avoir un ouvrier. Donc, prenez-en bien soin. Même s'il est grand, il a l'air autonome, suffisant. Prenez-en bien soin. À cet après-midi, je voudrais commencer par... le dernier verset de notre texte qui nous encourage, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18, il nous encourage en disant « Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. » Alors avant même de commencer la lecture du texte, je voudrais que nous puissions penser à cela. Comment pourrions-nous nous encourager par... le thème que nous allons aborder cet après-midi. Est-ce que d'abord nous nous encourageons nous-mêmes ou les uns les autres en abordant ce thème, en y réfléchissant et en méditant là-dessus? En tout cas, je voudrais que nous puissions aboutir à ce verset 18 d'une façon concrète, peut-être plus concrète, dans notre vie. Alors, nous allons commencer la lecture, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, jusqu'au verset 18. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont mort. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Car voici ce... Excusez-moi. En effet, verset 16, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Conclusion de ces versets. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que c'est vrai que ta parole est une source d'encouragement pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, tu veux que nous puissions aussi nous encourager les uns les autres en utilisant ta parole. Et cet après-midi, nous voudrions te demander, Seigneur, de nous montrer comment nous pourrions nous encourager davantage les uns les autres en parlant de ton retour. Seigneur, merci parce que tu vas revenir, tu nous l'as dit. Et même si les hommes se moquent de nous, Seigneur, nous avons cette pleine assurance, cette confiance que tu vas revenir et que tu vas nous prendre avec toi pour l'éternité. Donc Seigneur, nous voulons te remettre ce temps de méditation de ta parole afin que tu puisses toucher notre cœur. Amen. Alors, Alors quand je viens à l'église, ici le dimanche, je vois tout de suite qu'il n'y a pas de surprise. Le thème est à l'écran, le titre est à l'écran. Vous avez déjà reçu ça la veille, je crois, par internet, n'est-ce pas Christian? Mais un dimanche, je me lance le défi de vous surprendre, c'est-à-dire de changer le thème. Alors ça, ceux qui s'occupent de la musique, ils vont pas aimer ça. Christian non plus. Mais en tout cas, non, n'ayez pas peur, je ne ferai pas ça par taquinerie. Si jamais je le fais, c'est parce que le Seigneur me convainc de changer de sujet. Mais c'est arrivé très rarement dans le cadre de mon ministère pastoral. Donc le sujet qui se trouve devant nous, c'est un sujet à rapport avec le retour du Seigneur. Et en particulier, le retour du Seigneur en rapport avec les croyants qui sont décédés. Dans notre église, depuis peut-être une couple d'années, on a eu quelques décès. Et ces départs nous affectent, que nous le voulions ou pas. Ils nous affectent parce que ces départs nous rappellent notre propre finitude. Hein, nous aussi, un jour, on partira. Et ces départs nous affectent aussi parce que bien souvent nous avons tissé des liens avec ses frères et ses sœurs. Et nous les aimons et ils nous manquent. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent Pasteur Jeff Lorrain, lui aussi est décédé donc vers la fin de l'hiver. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont affectés. Plus le ministère de quelqu'un a de l'ampleur, et bien plus l'impact de son départ est grand. Et plus nous sommes nombreux à être profondément touchés par le départ de ses frères et de ses sœurs. Dans cet épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul fait référence à trois reprises au moins au retour du Seigneur. Et je voudrais regarder avec vous ces trois versets pour nous mettre un petit peu dans le contexte. Tout d'abord, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Et le verset 10, nous allons commencer la lecture au verset 9. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles. Pour quelle raison? Pour quelle raison ces chrétiens se sont détournés des idoles? Pour quelle raison ces Thessaloniciens ont fait ce qu'on appelle une conversion? C'était pour servir le Dieu vivant et vrai. Jusque-là, nous sommes bien d'accord avec cela. Nous savons que quand nous devenons chrétiens, c'est pour servir Dieu. Quand nous nous détournons des idoles, ce n'est pas pour continuer à les servir et en être esclaves, mais c'est pour continuer, ou plutôt commencer à servir Dieu. Mais au verset 10, l'apôtre Paul va donner une deuxième raison à cette conversion, une deuxième raison à ce mouvement qui consiste à se détourner des idoles. La première, c'est pour servir Dieu. La deuxième, c'est pour attendre que Jésus revienne du ciel, pour attendre son Fils qui a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors je ne sais pas si vous êtes tous conscients de cette double raison de se convertir, c'est-à-dire que la première, c'est de servir Dieu, mais la deuxième, c'est attendre le retour du Seigneur. Je ne sais pas si nous sommes tous très convaincus de cette deuxième raison. Est-ce que nous sommes chrétiens et nous attendons véritablement le retour du Seigneur? À la fin où j'ai des amis de la France qui vont venir nous voir, en fait, le monsieur a étudié avec moi il y a 46 ans à l'école biblique. Donc, c'était déjà dans le siècle passé, voyez-vous là. Et ça fait 46 ans que je ne l'ai pas vu. Donc il s'est marié, il a eu des enfants, etc. Et quand on a commencé à parler sur WhatsApp, bah, je me suis dit, il n'y a pas que moi qui vieillis, là, tu sais, il y en a d'autres aussi qui vieillissent. Mais on est très content de pouvoir les accueillir. Donc on attend leur arrivée. Et puis j'ai des petites choses à réparer dans la maison. Ma femme me dit, c'est le prétexte pour réparer ces petites choses-là. Tu sais, t'as des prises électriques à ranger, t'as des petits détails à faire. Et quand on reçoit des invités, ben on en profite hein, pour arranger certaines affaires. On peut même arranger un petit peu davantage l'extérieur. Tu sais, ça nous donne un objectif. Mais l'attente de quelqu'un a des impacts sur la manière dont on vit. Nous sommes convertis à Dieu pour le servir. Mais est-ce que nous l'attendons? Est-ce que l'attente du retour de Jésus affecte notre vie aujourd'hui? Comme la venue de quelqu'un chez nous affecterait probablement aussi votre vie. Donc, le Seigneur va revenir et il va nous, c'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Première référence de Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens. La deuxième référence se trouve au chapitre 2, verset 19. Donc, chapitre 2, verset 19, et je vais vous lire ce texte. « N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et la couronne dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue ?» Verset 20 même, « Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. » Alors, je ne sais pas si lors de sa mise à part, Christian a pensé à ce verset-là, en pensant à vous. En fait, vous savez, les gens que nous servons, que nous soyons pasteurs ou pas, que nous ayons un ministère dans l'église, ça peut être servir des enfants, ça peut être servir la musique, ça peut être servir à l'accueil, etc. Les gens que vous servez, en quelque sorte, sont votre joie. Ils sont votre récompense, votre couronne. Et d'un point de vue biblique, nous pouvons être fiers de servir nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas une fierté mal placée. L'apôtre Paul nous dit qu'il est fier lui-même dans le Seigneur. Il se glorifie dans le Seigneur. Mais il y a aussi des fiertés qui sont légitimes. Bien sûr, si tout reste à sa place. Mais des fiertés qui sont légitimes. Et servir des frères et des sœurs, de quelque manière que ce soit, c'est aussi notre fierté. En tout cas, c'est ce que Paul dit. Et il dit que cette fierté, cette joie, vont ressortir particulièrement au jour de la venue de Jésus. Intéressant, hein ? On est fiers du Seigneur, le Seigneur c'est le centre de notre vie. Oui, mais il y a aussi cette réalité à laquelle l'apôtre Paul fait allusion dans ce deuxième chapitre de Thessaloniciens. Troisième référence, il ne faut pas que j'oublie de faire avancer le texte en même temps que je parle. La troisième référence, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Troisième référence au retour de Jésus. Alors que le Seigneur affermisse aussi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. Il y a plusieurs détails qui sont intéressants. D'abord, la prière de Paul, le souhait de Paul, c'est que Dieu affermisse le cœur des chrétiens. Et la façon dont il prie, c'est que le cœur de ces chrétiens puisse devenir saint et irréprochable. Ouais, mais écoute, Paul, là, on n'est pas parfait dans la vie chrétienne, tu le sais, là, tu sais. Non, nous avons comme objectif, nous dit Paul, de marcher dans la sainteté, c'est d'être irréprochable. Merci au Seigneur qui pardonne nos fautes, qui lui nous rend irréprochables. Merci parce que, comme on l'a dit aussi, c'est par les moyens de grâce que Dieu nous a donné que nous pouvons grandir et nous pouvons avancer dans la vie chrétienne. C'est notre responsabilité, nous dit le Nouveau Testament. C'est notre responsabilité même si nous sommes imparfaits. Pourquoi ? Parce que Dieu nous met devant nous nos responsabilités, mais en même temps, il nous aide par son esprit, par sa grâce, pour que nous puissions grandir dans le Seigneur. Donc gardons toujours cela en pensée. Un des objectifs dans la vie chrétienne, c'est de marcher dans la sainteté et d'être irréprochable. Pas irréprochable aux yeux des autres, parce que bien souvent, nous avons nos propres traditions, tu sais, mais irréprochable devant Dieu. Et en fait, c'est peut-être Dieu qui est la personne la plus terrifiante devant qui on est appelé à être irréprochable, tu sais. Mais le texte nous le dit là. Nous soyons saints et irréprochables au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Notre croyance au retour de Jésus-Christ devrait avoir de l'impact dans la manière dont nous vivons. Et nous rappeler que nous allons paraître devant le Seigneur devrait avoir de l'impact dans la manière dont nous vivons aujourd'hui. Tout comme la venue d'un invité qui va venir chez nous fait en sorte que nous nous préparons à l'avance. Eh bien, si nous croyons au retour de Jésus-Christ, préparons-nous aussi à l'avance. Alors, je voudrais, durant cette présentation de cet après-midi, diviser le texte en deux parties. Bon, là, je vais un petit peu trop vite, là. On va laisser comme ça. La première partie, c'est de regarder les versets 13 et 14 de ce quatrième chapitre de 1 Thessaloniciens. Les versets 13 et 14. J'ai intitulé ces versets « Les croyants décédés ». Il est question des croyants qui sont décédés. Vous allez me dire, mais pourquoi une telle question ? On va se remettre dans le contexte pour voir pourquoi cette question était pertinente pour les chrétiens de Thessalonique. C'est peut-être pas la manière dont nous pensons aujourd'hui, mais pour eux, c'était pertinent. Et le deuxième élément, deuxième grande partie de cet enseignement cet après-midi, c'est la description de la venue du Seigneur dans les versets 15 à 17. Et Paul va faire un lien entre ces croyants décédés et la venue du Seigneur. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai repris le titre de la Bible du semeur. Parfois on cherche des titres et puis on se casse la tête, mais ce titre-là, je crois, était peut-être le meilleur auquel j'ai pu penser. C'est le suivant, « Les croyants décédés et le retour du Seigneur ». Donc c'est le titre que vous avez vu depuis tout à l'heure à l'écran. « Les croyants décédés et le retour du Seigneur ». Alors donc, premier élément, c'est versets 13 à 14. Paul commence en disant « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou qui sont décédés, selon les versions de la Bible. » En fait, vous savez, souvent, l'être humain, quand il parle de sujets qui sont difficiles ou effrayants, on utilise des figures de style, on utilise des images. Ça rend peut-être l'expression moins forte, moins épeurante. T'sais. On préfère dire que quelqu'un dort que dire que quelqu'un est mort. Là, en fait, Paul est en train de parler de ceux qui sont décédés. T'sais. Et il nous dit d'emblée, je ne veux pas vous laisser, en fait, nous ne voulons pas, c'est l'équipe qui est avec Paul, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance. Alors l'ignorance, vous savez qu'on dit qu'il faut éduquer les gens pour qu'ils puissent sortir de l'ignorance. C'est l'ignorance qui va faire en sorte que la société va évoluer. C'est l'ignorance qui va faire en sorte que vous allez peut-être avoir une meilleure formation, un meilleur travail, de meilleurs revenus, etc. Donc l'ignorance, c'est un ennemi contre lequel l'être humain veut souvent se battre. Non seulement dans la vie spirituelle, mais aussi dans la vie de tous les jours. Petit problème avec l'être humain, c'est que il pense que la connaissance va annuler les impacts du péché. Autant l'ignorance peut avoir des conséquences néfastes dans notre vie, autant le savoir peut aussi avoir des impacts négatifs dans notre vie, puisque l'être humain est encore pécheur. Et l'être humain ne se sert pas toujours de la meilleure manière de la connaissance qu'il a, même si c'est une bonne connaissance. Vous savez ce que l'être humain a fait avec les bombes atomiques, avec, comment dirais-je, dans le milieu médical, on se sert d'instruments pour nous examiner, tout ça, tu sais. Mais en même temps, parfois, on se sert des mêmes outils pour faire du mal. Tu sais. Donc l'être humain, à cause de son péché, n'utilise pas toujours la connaissance, et lorsque l'être humain nous dit que le salut est dans la connaissance pour nous sortir de l'ignorance, c'est à demi vrai, à cause du péché qui nous habite. Mais c'est particulièrement vrai dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, l'ignorance, nous savons, peut provoquer chez nous de l'anxiété. Par exemple, si nous ignorons que Dieu prend soin de nous et que Dieu nous aime et qu'il est notre bon berger et qu'il nous guide, eh bien, si nous faisons face à toutes sortes de défis dans notre vie, des défis qui nous paraissent insurmontables, notre réaction va être d'essayer de contrôler notre contexte au lieu de nous reposer dans le Seigneur qui contrôle toutes choses, au lieu de lui faire confiance. Donc, ignorer le fait que le Seigneur, c'est notre bon berger, peut provoquer chez nous de l'anxiété. Ce bon berger qui nous guide, hein, c'est la responsabilité du bon berger de guider ses brebis. T'sais. Personne n'a vu des brebis guider le troupeau. C'est le Seigneur qui guide ses brebis. L'ignorance peut aussi provoquer de la timidité. Vous savez, quand on témoigne de l'Évangile, on n'aime pas toujours... on n'a pas toujours le courage de présenter tous les aspects de l'Évangile. On a parlé un petit peu de le témoignage il y a quelques temps avec vous ici. Mais présenter tout l'évangile, ça ne consiste pas seulement à dire que Jésus nous aime. C'est... Et présenter l'évangile, c'est aussi avoir le courage de parler du péché et de la colère de Dieu. Et que l'amour de Dieu consiste à nous délivrer de sa colère. Ça, ce n'est pas un message très populaire aujourd'hui. Et parfois, peut-être pas simplement par ignorance, mais aussi par lâcheté, on ne veut pas trop présenter l'ensemble de l'évangile. Par exemple, qui d'entre nous, quand il présente l'évangile, met l'accent sur la résurrection ? Alors que tu mettes l'accent sur un Dieu qui t'aime, ça tout le monde est bien d'accord avec toi. Mais mettre l'accent sur la résurrection, il n'y a personne qui est vraiment ressuscité, en tout cas moi j'ai jamais vu personne ressuscité, ça ne fait pas partie de mon expérience, ni de l'expérience de mon interlocuteur, ils vont me traiter de fou, tu sais. Oh, on parlera de ça plus tard, attends, on verra là, plus tard. On va parler d'abord de l'amour de Dieu, tu sais. Mais ignorons-nous que le message de la résurrection fait partie entière du message de l'évangile ? Que quand les apôtres prêchaient l'évangile dans le Nouveau Testament, ils parlaient de la résurrection du Christ. Ça faisait partie du message de l'évangile. Et nous allons voir l'importance de la résurrection, en particulier dans le sujet que nous traitons aujourd'hui. Nous allons voir ça dans quelques instants. L'ignorance peut aussi être la cause des doutes. Vous savez, si j'ignore que je suis adopté par Dieu, si j'ignore que c'est le Seigneur qui m'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, si j'ignore que le salut est l'œuvre de Dieu, même si Dieu s'attend à une réponse de l'être humain, si j'ignore que le Seigneur va me tenir dans sa main et me garder fidèle jusqu'au bout, qu'est-ce que ça va provoquer dans ma vie ? Ça va provoquer des doutes. Comment puis-je vraiment avoir confiance en moi pour avoir l'assurance de mon salut ? Donc l'ignorance peut provoquer toutes sortes de fruits négatifs. Et Paul ici le sait très bien, il ne veut pas que les frères restent dans l'ignorance, il veut que les frères sortent de l'ignorance. Alors, l'ignorance au sujet des croyants décédés, drôle de sujet ça. Mais vous savez que l'apôtre Paul a parlé du retour de Jésus, mais il a parlé du retour de Jésus, non pas dans un seul chapitre où il donne tous les détails sur le sujet, mais il a parlé du retour du Seigneur à plusieurs endroits dans ses épîtres. Et il avait déjà parlé du retour du Seigneur aux Thessaloniciens, mais probablement qu'il n'avait pas donné tous les détails concernant le retour du Seigneur. De toute façon, nous n'avons pas tous les détails nous aussi aujourd'hui, nous avons encore des questions. Mais les Thessaloniciens avaient des questions en particulier pour les frères et les sœurs qui étaient décédés. Qu'est-ce qui va arriver avec eux ? Est-ce que nous, on va avoir un avantage parce qu'on est vivant si le Seigneur revient ? Parce qu'ils attendaient le retour du Seigneur, les Thessaloniciens. T'sais. Si le Seigneur revient, nous, on va avoir un avantage, il va nous prendre avec lui. T'sais. Mais nos frères qui sont morts, là, avant nous, qu'est-ce qui va se passer avec eux ? Ce n'est pas vraiment une question qui nous tracasse beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque, ça les tracassait tellement que Paul a jugé bon d'inclure dans son épître, la première épître aux Thessaloniciens, un paragraphe ou quelques versets à ce sujet. Donc, il veut que ces chrétiens sortent de l'ignorance. Il ne veut pas que ces chrétiens-là soient découragés en pensant à ceux qui sont morts. Et quand l'apôtre Paul, au verset 13, nous exhorte en disant « Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance », moi, ça me fait penser à un autre texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. J'aimerais bien qu'on puisse tourner ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, que nous puissions regarder quelques versets qui nous parle en quelque sorte d'ignorance. Regardez chapitre 5, verset 11. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. Vous savez, des fois, on se moque les uns des autres, hein. On raconte une blague. Il y en a trois ou quatre qui rient, puis le quatrième, il ne rit pas. Il n'a pas compris la blague. T'sais. Alors, on taquine la personne. Elle dit, t'es longue à comprendre. T'sais. Moi, quand j'étais en Europe, les Français taquinent les Suisses et les Belges. T'sais. Et puis, quand on dit, pour taquiner les Suisses, on dit, quand on raconte une blague le dimanche à l'église, les Suisses, ils la rient le mercredi à la réunion de prière. T'sais. Donc, je ne sais pas si les Suisses spirituellement sont plus lents que les Français, je ne penserai pas. Mais on a tous des blagues comme ça, hein, dans nos cultures qui nous sont propres. Mais ici, l'apôtre Paul ne fait pas des blagues. Il nous dit, vous êtes devenus lents à comprendre. J'ai tellement de choses à vous expliquer. Puis c'est pas Paul, excusez-moi, là c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux, parce que tout le monde n'est pas convaincu que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Mais l'auteur est en train d'expliquer la doctrine concernant la prééminence de Jésus-Christ. Et puis il dit, j'ai tellement de choses à vous expliquer, mais vous êtes lents à comprendre. Regardez au verset 12. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Je ne sais pas si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils sont convertis, mais ils sont convertis depuis, ou en tout cas, ils sont venus au Seigneur depuis suffisamment de temps que ces gens-là devraient être des maîtres dans les choses de Dieu. Ils devraient avoir compris bien plus que ceux qu'ils ont compris. Or, nous dit le verset 12, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à oublier. C'est pour ça que Paul, il nous rappelle certaines choses. Mais quand même, être rendu au point où vous ne pouvez même pas comprendre ce que j'écris, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ben, il faut vous enseigner de nouveau les rudiments, tu sais, des paroles de Dieu. Vous en êtes venu au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Et dans des églises, il y a des gens qui se plaignent et qui disent « Oh, l'enseignement est trop compliqué ». Ben écoutez, vous êtes peut-être au stade où vous avez besoin de biberons. Tu sais, et peut-être que c'est vrai, on devrait peut-être être un peu plus simple dans notre enseignement, mais honnêtement, à un moment donné, il faut passer du lait à la nourriture solide. Honnêtement, à un moment donné, là, ne nous complaisons pas dans un enseignement rudimentaire pour trouver une excuse pour ne pas écouter des enseignements beaucoup plus profonds qui visent à nous faire grandir dans le Seigneur. Verset 13. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience. Regardez combien c'est grave hein, quand on est toujours au lait là. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Ah, t'es enfant de Dieu là ? Puis t'as aucune expérience. Ah, l'auteur il dit pas t'as moins d'expérience. Il dit t'as aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Mais ça c'est grave. C'est grave. À la fin du passage, vous allez voir une autre expression. Les adultes, au verset 14, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, voilà à quoi ça sert de prendre de la nourriture solide. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Vous savez, c'est quand on grandit dans la foi chrétienne, c'est quand on reçoit la parole de Dieu. C'est quand on comprend les choses qui sont plus difficiles qu'on arrive de plus en plus à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Peut-être que les chrétiens aujourd'hui se contentent seulement de demander à Dieu de bénir leurs propres entreprises. Parce que c'est leur entreprise. Et c'est un petit peu le cas du peuple de Juda dans Jérémie. Alors qu'ils avaient pris la décision de partir en Égypte, ils avaient peur de la réaction de Babylone après que quelqu'un ait assassiné Guédalia, le gouverneur de Juda, qui avait été installé par Nabucodonosor. Ils décident de partir en Égypte, ils ont peur, tu sais. Puis là, ils se disent, « Ah, on devrait consulter l'Éternel. On va voir Jérémie, on va consulter l'Éternel. » Puis ils disent à Jérémie, « Écoute, tu peux nous dire ce que tu veux, là, ce que tu veux, et on va faire ce que tu nous demandes. » Alors quand le lecteur arrive à ce passage-là, c'est dans les chapitres 30 de Jérémie, là, il dit, ah, enfin, le peuple a commencé à comprendre. Là. Il commence à comprendre qu'il faut venir écouter Dieu là, et mettre en pratique ce que Dieu dit, même si ça ne nous plaît pas. Maintenant, quand Jérémie leur a dit, écoutez, si vous allez en Égypte, vous serez tous détruits. Si vous restez en Juda, ne craignez pas Nabucodonosor, je vais intervenir en votre faveur. Ah, ils ont traité Jérémie de menteur. Ils étaient choqués. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient simplement que Dieu bénisse les décisions qu'ils avaient prises. Sans réellement avoir le désir de se soumettre à lui, quelles qu'en soient leurs paroles. Vous savez, est-ce que nous nourrissons de la parole de Dieu ? Est-ce que nous sommes tellement imbibés de la parole de Dieu que nous pouvons distinguer ce qui est bien de ce qui est mal ? Deuxième élément dans cette section sur les croyants décédés, c'est qu'au verset 13 de la première épître de Thessaloniciens du chapitre 4, au verset 13, il est question d'un chagrin illégitime. Comment ça, parler d'un chagrin illégitime? Quelqu'un a du chagrin, c'est son chagrin, reconnais-le, t'sais, valide son chagrin. Mais l'apôtre Paul nous dit que les croyants, face à la mort, ils ont une tristesse. Ils ont une tristesse. Et il nous dit, écoute, il ne faut pas que toi, tu aies la même tristesse que celle des non-croyants. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il n'est pas en train de dire que la tristesse ou le chagrin en soi est mauvais. Non, non, le chagrin en soi est légitime. C'est normal d'être affecté, de souffrir, quand quelqu'un qui nous est cher s'en va en présence du Seigneur. Il y a la douleur de la séparation, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? Ce qui n'est pas normal, c'est le chagrin sans espoir. Vous savez que la vie chrétienne est une vie remplie de paradoxes. La joie dans la souffrance. La joie dans le chagrin. La joie dans le deuil. Et en tant que chrétien, nous avons une espérance. D'ailleurs, le terme espérance revient à la fin de ce verset 13. Ne soyons pas comme le reste du monde, le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Alors, je ne parlerai pas de la conception de la mort chez les Grecs, là, mais aujourd'hui, les gens qui passent par le deuil essaient de lutter de la manière dont ils peuvent contre la souffrance qui les anime. Alors, ils imaginent toutes sortes de choses. Oui, celui qui vient disparaître, c'est une petite étoile qui brille dans le ciel, qui nous regarde de là-haut, qui va nous diriger, on peut le prier. Ou qui disent... Hier, j'ai vu un petit documentaire, enfin, plutôt un extrait d'un documentaire de Louis de Funès. Vous savez, ce fameux comédien français, la comique burlesque, qui, à 60 ans, a eu deux crises cardiaques, 2 mois et demi à l'hôpital. Ça a ralenti pas mal. Bon, après quelques temps, il a recommencé à faire des films, en essayant de mettre la pédale douce, mais il est quand même mort à 68 ans d'une autre crise cardiaque. Et avant de mourir, il disait, « Ah, mais tous ceux qui sont morts, tous les gens qui sont morts, ils sont près de nous. » Et puis dès qu'on leur demande de venir, ils viennent. C'est, d'accord, tu souffres de la séparation, de la mort, tu vis un chagrin, tu vis une peine, tu vis un deuil, mais ce n'est pas une raison d'imaginer n'importe quoi pour essayer de te consoler. Ça te fait peut-être du bien, mais ce n'est pas vrai. Hein? La Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Tu n'es pas en train de te balader à droite et à gauche quand tu meurs là. Et puis, rester dans ta famille auprès des gens que t'aimes, parce qu'il y a une petite urne là sur la cheminée de ta maison, puis les cendres sont là, puis la personne, elle est là. Tu peux la prier, tu peux l'invoquer, tu peux lui demander qu'elle t'aide. T'sais. Non, c'est pas ça. La mort, c'est une séparation, c'est une coupure. Et vous savez ce que dit la Bible? La mort, c'est le dernier ennemi. Donc la mort, c'est pas quelque chose à négliger là. On va essayer d'adoucir le plus possible pour se convaincre que la mort n'est pas un ennemi. C'est pas vrai, là. La mort, c'est le dernier ennemi. Mais nous n'avons pas de chagrin sans espoir. Ça, c'est extraordinaire. Notre espérance. Quelle est-elle, cette espérance? Eh bien, regardons le verset 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Le verbe croire est employé 2 fois. Et l'apôtre Paul est en train de décrire 2 objets de la foi. Il y en a un qui est le fondement de l'autre. Le premier objet de la foi, c'est la mort et la résurrection du Christ. Si nous croyons à la mort et la résurrection de Christ, dit Paul, alors nous croyons aussi à autre chose. C'est certain que si nous ne croyons pas à la mort et à la résurrection de Christ, non seulement notre foi est vaine, comme dit Paul dans 1 Corinthiens, mais ce n'est pas nécessaire de croire à ce que je vais te dire par la suite, dit Paul. Tu sais. Mais moi je sais, dit Paul, que vous croyez à la mort et à la résurrection du Christ. Il est en train de le dire à ses croyants, qui s'inquiétait pour ceux qui étaient décédés, là, ces croyants de Thessalonique, et leur dit, eh bien, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc tous vos frères et sœurs qui sont morts, ceux que vous aimiez, ceux envers qui vous étiez attachés, eh bien, vous pouvez croire, et c'est vrai, vous pouvez croire que le Seigneur va les ramener avec lui lorsqu'il va revenir. Alors vous avez donc deux objets de la foi ici. Deux objets de la foi. Premièrement, la mort et la résurrection du Christ. Et deuxièmement, le fait que Dieu va ramener ceux qui sont morts avec Jésus-Christ. Deuxième grande section de notre prédication aujourd'hui, c'est la description de la venue du Seigneur Jésus. Alors Paul va en profiter, non seulement pour parler de ceux qui sont morts, mais il va élargir un petit peu le sujet pour arriver au verset 17 à un apogée. Une apogée, nous allons le voir dans quelques instants. Donc, verset 15, il commence à dire à l'apôtre Paul qu'il n'y a pas d'avantage pour les vivants. Regardez le verset 15. Voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Alors Paul est en train de dire, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas les premiers, puis les autres qui sont morts arriveraient en deuxième, troisième position, je ne sais trop quoi, il y aurait un désavantage. Non, il dit, vous ne les précéderez pas. Alors ce que Paul est en train de dire dans ces quelques versets 15 à 18 n'est pas exhaustif, hein. Il n'est pas en train de décrire tous les détails concernant le retour du Seigneur. La Bible nous donne d'autres détails par la suite. Et comme j'ai déjà dit à quelqu'un qui me posait des questions, je dis, moi, quand je prends un texte, puis que le texte me parle du retour du Seigneur, j'essaie de retenir ce que le texte dit, et pas ajouter d'autres éléments qui correspondent à mes schémas eschatologiques. Là, j'essaie de retirer seulement ce que le texte dit. Et puis quand vous faites ça pour chacun des textes qui parlent du retour de Jésus-Christ, vous avez bien plus de chances de ne pas vous égarer dans des raisonnements, mais plutôt de rester fidèle au texte biblique. Donc Paul ne dit pas tout, et cet après-midi nous ne dirons pas tout, mais ce que nous voulons souligner, c'est seulement ce que le texte dit. Alors cette description n'est pas exhaustive, et Paul la précède, cette description, d'une expression. Il dit, verset 15, voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Là il y a de l'autorité, hein. Quand un auteur biblique commence à dire, voici ce que je vais dire, ça vient du Seigneur, Paul l'a déjà fait à d'autres reprises, c'est que le sujet est important et que Paul a besoin de souligner l'autorité par laquelle il va prononcer ce qu'il va dire. Et même si le sujet peut nous paraître trivial pour nous aujourd'hui, c'est un sujet tellement important pour les Thessaloniciens, savoir qu'est-ce qui se passe des chrétiens qui sont morts, que Paul est en train de dire, écoutez bien là, ce que je suis en train de vous dire, ça vient du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Quelle parole du Seigneur? En tous les cas, ça ne se retrouve pas dans les évangiles. Le Seigneur dit rien à ce sujet. Se pourrait-il que ce soit une parole que le Seigneur ait prononcée durant ces 3 ans de son ministère et qui aurait été rapportée par ses apôtres? Peut-être. Se pourrait-il aussi que ce soit une parole que Paul ait reçue? Parce que Paul a déjà reçu des paroles du Seigneur, tu sais? Peut-être. Mais toujours est-il, ce que Paul est en train de dire, c'est que ça vient directement du Seigneur. Et donc, il associe l'autorité du Seigneur à ce qu'il va dire. Et il le dit, nous croyons que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc quand Jésus va revenir, il va ramener avec lui ceux qui sont morts. Où se trouvent ceux qui sont morts? Le texte ici ne donne pas de détails, mais l'Apocalypse nous dit que quand les enfants de Dieu meurent, ils vont en présence de Dieu, devant son trône, et se joignent à l'armée céleste, et ils louent Dieu. Et ils louent Dieu en attendant la résurrection. C'est ça ce que nos frères et sœurs font depuis qu'ils sont décédés. Ils sont en présence de Dieu. Ils n'ont pas encore été ressuscités, mais ils sont en présence de Dieu. Mais quand le Seigneur va revenir, eh bien, ses frères et ses sœurs vont revenir avec lui. Hein? Ils vont revenir avec lui, et pour que le Seigneur puisse nous prendre, nous et eux, à travers la résurrection, pour que nous puissions monter à la rencontre du Seigneur. Dans ces quelques versets, à partir du verset 15 à 17, donc ce texte, ce passage qui nous décrit la venue d'un mort du Seigneur, qui nous décrit la venue du Seigneur, nous voyons un deuxième élément, c'est la place des morts dans la parousia, ou dans la parousie, c'est-à-dire dans la venue du Seigneur. Regardez le verset 16. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. Nous, on a l'habitude de lire les textes, et puis on lit ça, puis on passe par-dessus rapidement. Tu sais. Mais il y a quelque chose de glorieux là-dedans. Là. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient d'être décrit. Là, tu sais. Tout d'abord, vous avez le Nouveau Testament, en particulier les Actes, nous disent que le Seigneur va revenir de la même manière qu'il est monté au ciel. Alors, de quelle manière le Seigneur est-il monté au ciel? Eh bien, Acte 1, verset 11, nous dit qu'il est monté, lui, personnellement, au ciel. Ce n'est pas un ange qui a pris la forme du Seigneur, ou je ne sais trop quoi. C'est lui, hein, qui est véritablement en personne, qui est monté au ciel. Ensuite, il est monté au ciel, mais avec son corps. Corporellement, il est monté au ciel. Jésus n'est pas monté au ciel en esprit. Et puis le texte de Acte 1.11 nous dit aussi qu'il est monté au ciel de façon visible. Ils l'ont vu monter au ciel. T'sais. Et le texte, la parole nous dit que le Seigneur va revenir de la manière dont il est monté. Alors dans ce passage, puisqu'on regarde Thessaloniciens, nous retrouvons trois expressions. Regardez l'expression, la première expression. Au signal donné. Bon, quand on lit ça, nous, signal donné, on passe là-dessus. Mais vous savez que celui qui donne le signal à des rassemblements particuliers, comme, je ne sais pas moi, une intronisation d'un roi, ou un grand rassemblement du peuple, etc., c'est quelqu'un qui a une autorité qui déclare le début de l'événement. Vous avez peut-être vu hier la cérémonie des Jeux Olympiques. À un moment donné, il y a quelqu'un qui déclare le début de cette cérémonie-là. Puis on n'a pas pris le balayeur du coin pour faire ça. Là. C'est des gens importants, c'est des gens qui ont de l'autorité. Nous déclarons ça ouvert. T'sais. Et nous avons cette même autorité dans ce verset-là. Ensuite, le deuxième élément que nous retrouvons dans ce verset, c'est la présence de l'archange, à la voix d'un archange. Ce n'est pas un ange qui va parler, là. C'est la voix d'un archange. Et l'archange, c'est celui qui représente toute la puissance de Dieu. C'est le messager puissant que Dieu envoie. Alors, il y a quelque chose de puissant là, dans le retour du Seigneur qui va se dérouler. Là, tu sais. Et le troisième élément, c'est celui de la trompette. Alors nous, la trompette, c'est un instrument de musique comme un autre. Mais vous savez que la trompette, dans l'Ancien Testament, c'est extrêmement important, c'était un instrument de rassemblement. On voulait fêter la Pâque, on sonnait la trompette, et puis il y avait un bruit qui se faisait là, puis le peuple était appelé à venir. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se passer. C'est un appel au rassemblement. C'est aussi un appel pour célébrer quand on sonne de la trompette. Il y a quelque chose de majestueux dans ces versets. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces versets. Et de plus, la fin du verset nous parle du fait que ceux qui sont morts, unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. Voyez-vous, ceux qui sont morts ne vont pas passer à côté de quelque chose. Eux aussi vont participer à tous les événements qui vont se dérouler lors du retour de Jésus-Christ. C'est ce que Paul est en train de préciser. Le point culminant de tout ça, c'est le verset... Oups, est-ce que j'amène la souris en quelque part? Ah là, voilà. Voilà. Si je perds la souris de vue, là, je perds tout. Là, tu sais. Le point culminant, c'est le verset 17. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux. Regardez, c'est ça le point culminant de tous ces quelques versets. Vous et ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Là encore, on lit ça vite, puis on ne perçoit pas toute la force qu'il y a dans ces versets. Regardez l'expression qui est utilisée. Nous serons enlevés. Le terme grec utilisé, c'est un mot qui fait allusion à une force irrésistible. Non seulement c'est un verbe au passif, c'est-à-dire c'est pas moi qui vais décider de hop, je vais suivre le Seigneur, là, tu sais. Je vais essayer de sauter pour essayer de rejoindre là-haut, là, tu sais. Non, moi, je peux rien faire, moi, tu sais. C'est la puissance du Seigneur qui va se manifester et qui va nous prendre. On va être l'objet d'une force irréversible pour aller à la rencontre du Seigneur. En fait, si vous voyez à l'écran, le même verbe est utilisé dans Matthieu 11. Où on nous dit qu'il y a des gens qui vont prendre le royaume de Dieu par force. Vous vous rappelez de ce texte-là qui est un petit peu difficile à comprendre, on se pose des questions. Mais il y a cette idée de force et de puissance. Il y a des gens qui veulent tellement le royaume de Dieu, là, qui vont tout faire pour pouvoir y accéder. T'sais. Et puis, lorsque le Seigneur va venir, la force de Dieu va être telle que tous ces êtres humains, vivants ou décédés, seront pris pour aller à la rencontre du croyant, à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans les nuées. Alors, c'est intéressant parce que la Bible du Semeur, dans une note, dit ceci, que cette idée d'être pris pour aller à la rencontre du Seigneur fait allusion, c'est une image qui fait allusion à cette image là, des citoyens d'une ville qui sortent à la rencontre d'un invité important pour l'accueillir et l'accompagner jusque dans la cité. Alors imaginez-vous un petit peu là, des gens qui sortent pour aller à la rencontre de quelqu'un d'important qui arrive, puis ils le rencontrent, puis ils l'escortent jusque dans la cité. Tu sais, il doit y avoir toute une atmosphère là, tu sais, toute une joie, toute une cérémonie. Tu sais, c'est un événement extraordinaire. Tu sais. Eh bien, voilà un petit peu à quoi va ressembler le retour du Seigneur. Et le texte nous dit tout cela pour que nous soyons pour toujours avec lui. Alors, les nuées, les airs, on ne va pas s'amuser à planer comme les avions, là, ou les drones et tout ça pour aller voir le Seigneur. Là. Mais quand il nous parle des cieux, des nuées, c'est pour nous dire que nous serons pour toujours en présence du Seigneur. Hein. Souvent, Dieu, il est là-haut, dit la Bible, mais quand on parle des nuées, on parle de là où est Dieu, on parle de la présence de Dieu. Donc, nous irons en présence de Dieu. Alors, dernier élément, on arrive maintenant à cette remarque que je vous ai faite au tout début de la prédication. Est-ce que ça va marcher ? Ouais. Bon, ben, je vais toutes les mettre à l'écran, comme ça, j'aurai moins de soucis. Le verset 18 est un encouragement. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Remarquons que c'est un impératif. Encourageons-nous. Alors la question à se poser, c'est est-ce que nous obéissons à l'impératif ? Est-ce que nous obéissons à l'ordre ? Et la question que je me pose et que peut-être vous vous posez, c'est est-ce que vous et est-ce que je m'encourage dans mes rapports avec les autres en parlant du retour de Jésus-Christ ? Ou est-ce que je m'encourage en disant « Oui, je te comprends, tu vis telle ou telle difficulté dans ta vie, oui, je sais, émotionnellement, c'est pas facile. » Puis vous faites ce qu'on vous a appris dans des cours de relations d'aide. Vous faites le reflet pour refléter la souffrance de l'autre, pour que l'autre puisse comprendre que vous avez bien compris qui souffrait, quelle était sa souffrance. Est-ce que c'est mauvais ça ? Absolument pas. Mais est-ce qu'on passe à côté de quelque chose ? Si on n'utilise que certaines techniques qui nous sont enseignées dans des cours de relations d'aide, ou est-ce qu'on oublie que peut-être dans les moments difficiles, oui, une fois que tu as exprimé ta souffrance, ou une fois que l'autre a compris ta souffrance, n'est-ce pas le temps aussi de regarder au Seigneur, puis de regarder à tout l'encouragement qui pourrait être le nôtre en pensant au retour du Seigneur, en pensant au fait qu'on sera un jour pour toujours avec lui, en sa présence. Vous savez, Paul il dit au début de ce passage, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Mais il y a une nuance entre être ignorant de la parole de Dieu et ignorer ce qu'on sait de la parole de Dieu. Alors je peux ignorer que le Seigneur revient, ça c'est pas compliqué, un chrétien va me le dire, au moment donné je vais le lire dans la parole. Mais maintenant que je l'ai lu, est-ce que j'ignore ce que j'ai lu ? Ou est-ce que je me réjouis, je grandis, je me sers de ce retour du Seigneur pour encourager les frères et les sœurs dans ce qu'ils vivent, dans leur quotidien. Est-ce que j'ignore ce que je sais ou est-ce que je mets en pratique ce que je sais ? Alors évidemment, il faut se parler. Bon, peut-être que parmi vous, il y a des couples qui sont chrétiens. Si vous êtes deux chrétiens, est-ce que vous parlez du retour du Seigneur ? Ou est-ce que vous allez attendre d'avoir l'âge de Luc, là, ou mon âge, là, en se disant on est vieux nous maintenant, puis C'est sûr que c'est le temps de parler du retour du Seigneur, tu sais. On ne sait jamais quand le Seigneur peut venir nous chercher, tu sais. Il n'y a pas d'âge pour penser au retour du Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour s'encourager avec le retour du Seigneur, tu sais. Avec nos enfants, est-ce qu'on leur parle du retour du Seigneur? Est-ce qu'on s'encourage en parlant du retour du Seigneur, en parlant à nos propres enfants, pour que nos enfants puissent comprendre quel est l'objet de notre foi et puissent comprendre que nous, nous gardons les yeux fixés sur le Christ? Est-ce que nous parlons de cela entre amis chrétiens? Parfois, on décide entre amis chrétiens d'avoir une bonne soirée. T'sais, un samedi soir, on va faire des jeux de société, disons, là, tu sais. Et puis, on se rencontre, et puis on rigole, on mange ensemble, et puis on a du bon temps. Mais est-ce que c'est juste du bon temps? Ou est-ce qu'on s'encourage aussi mutuellement en parlant du retour du Seigneur? Est-ce que cette réalité du retour du Seigneur nous transcende, là, nous encourage dans ce que nous vivons, nous donne une nouvelle dimension à notre vie, au lieu de simplement s'amuser comme les gens du monde le font? Est-ce qu'il y a du mal à s'amuser? Absolument pas. Le Seigneur nous permet de donner des moments de joie, de détente, d'amusement, c'est vrai. Mais dans tout cela, est-ce que nous parlons les uns aux autres pour nous encourager du retour du Seigneur? Le Seigneur va revenir, il va nous prendre avec lui, les vivants et les morts. Encouragez-vous mutuellement par ces paroles. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu vas revenir. Tu vas revenir, Seigneur, c'est bien plus que des paroles. Les croyants se moquent de nous quand on parle de ton retour. Et oh, ça fait 2000 ans que vous parlez du retour du Seigneur, il n'est même pas revenu. Oubliant que dans ta grâce, Seigneur, tu tardes à revenir pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Mais Seigneur, tu vas revenir. Et c'est tout aussi l'objet de notre foi que la réalité de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, fortifie notre foi. Permets-nous de nous nourrir de cette vérité concernant ton retour. Amen.